I have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bienvenue dans l'Amérique et vous, Eric Manilakiza en votre compagnie. Ce soir, nous revenons sur le shutdown qui vire au règlement de compte. Au lendemain de la demande formulée par la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, à l'endroit du président Donald Trump, de reporter le traditionnel discours sur l'état de l'Union prévu le 29 janvier. La Maison-Blanche a empêché hier Mme Pelosi d'utiliser un avion militaire pour ses déplacements à Bruxelles, en Égypte et en Afghanistan. Ce bras de fer autour de cette impasse budgétaire dure depuis plus de 3 semaines. Ceci a poussé quelques 800 employés fédéraux au chômage forcé ou à travailler sans solde pour ce dont les emplois sont jugés essentiels. Pour en parler, nous avons Jean-François Seznec en ligne, notre invité ce soir. Vous êtes politologue spécialisé dans les affaires et la finance. Bonsoir, monsieur Seznec.
Bonsoir, Eric.
Voilà, le shutdown, 28e jour, pas de solution, une impasse qui n'est pas apparemment prête à prendre fin.
Non, absolument pas, non, je crois qu'on est bien parti pour une bonne durée là, oui.
Entre-temps, il y a beaucoup de conséquences sur les familles, l'économie, etc. Vous êtes témoin de quelques faits, n'est-ce pas?
Bien sûr, j'habite aux alentours de Washington. Alors bien sûr, comme il y a 800 000 employés fédéraux qui ont perdu leur travail, ça représente quand même beaucoup de gens dans la région et beaucoup de gens, donc soit sont sans travail, ne sont pas payés, bien sûr, tous ces 800 000 employés ne sont pas payés. Certains sont obligés de travailler, un grand nombre d'ailleurs, sont obligés de travailler sans paye, et parce que c'est la loi, et les autres ne travaillent pas et ne sont pas payés de plus. En plus, et peut-être encore plus important au point de vue économique, c'est le fait qu'il y ait plus de 1 million de contractuels qui travaillent pour le gouvernement sans être employés du gouvernement, qui eux ne sont pas payés et ne seront jamais payés en fait, parce que leurs services ne sont pas comme les gens qui servent dans les cafétérias, les gens qui nettoient les bureaux, etc. Et aussi beaucoup de gens, de consultants qui travaillent pour un département ou un autre et qui, eux, normalement, ont des fees, des salaires assez importants, mais qui, eux, ne toucheront rien du tout. Donc, ça va avoir une influence quand même énorme sur l'économie de la région, mais aussi beaucoup d'autres villes de la Fédération des États-Unis, hein, qui eux aussi ne travailleront pas parce qu'il y a des départements qui ont des bureaux dans toutes ces régions.
Vous discutez sans doute avec certaines des personnes qui sont affectées par ce shutdown, notamment ces fonctionnaires qui ne perçoivent pas leur salaire actuellement. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils racontent?
Bien, ils sont très embêtés, bien sûr, parce que ils savent que en général les fonctionnaires eux-mêmes ne sont pas payés, mais quand le gouvernement rouvrira, il est fort probable, c'est pas obligatoire, hein, mais il est fort probable qu'ils seront payés même pour les jours où ils n'ont pas travaillé. Par contre, les contractuels, eux, ne seront pas payés. Mais donc, ils sont quand même inquiets parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà perdu un mois de salaire et qui ne peuvent pas payer leurs hypothèques sur les maisons, les loyers, et qui ont du mal à couvrir leurs dépenses parce que les salaires ne sont pas très élevés de toute façon. Et beaucoup de gens vivent de jour à jour. Hein, et comme s'ils ne peuvent pas payer leurs frais, ils vont avoir des gros problèmes, c'est sûr.
Gardez la ligne, monsieur Seznec. On a un auditeur qui nous appelle de Conakry. C'est Diallo Tcherno. Diallo, bonsoir.
Oui, bonsoir Eric et bonsoir à l'ensemble des auditeurs et des autrices de VO Afrique.
Voilà, vous êtes un auditeur fidèle de VO Afrique, vous savez tout ce qui se passe ici aux États-Unis. Le shutdown, nous y revenons encore une fois. Je vous écoute.
Oui. Oui, mais cette fois-ci encore, c'est en train de parler de notre allure parce que les choses sont en train de tourner, comme vous avez dit, au règlement de compte, vu le report du discours du président et l'empêchement de Mme Nancy d'utiliser l'avion militaire pour ses déplacements. C'est quelque chose vraiment qui n'honore pas les États-Unis parce que c'est un pays qui a servi d'exemple dans plusieurs domaines, que ce soit dans la gestion des choses publiques ou à la démocratie. Donc, il faut que M. Trump revoie les choses parce que tout le monde sait qu'il a un manque d'expérience dans la gestion des choses publiques. C'est vraiment très grave d'amener plus de 800 000 employés fédéraux au SOMAD. C'est beaucoup, c'est pas quelque chose que qu'on doit négliger. Il faut qu'il va droit au but pour aller faire quelque chose de positif pour négocier avec le chambre de représentants pour que l'issue favorable soit vraiment trouvée dans un bref délai. Trois semaines, ça a beaucoup duré. Il faut qu'il soit vraiment un président qui est entouré par des grands hommes qui ont la capacité d'intervenir dans les situations pareilles. Mais on dirait qu'il n'y a personne autour du président. Il n'a pas de conseil économique et autres ou bien de conseil politique parce que ça risque, ça joue pour sa réélection bientôt. Vous voyez, c'est quelque chose vraiment qu'il devrait éviter parce que les shutdowns en répétition chaque fois. Il n'y a pas plus de 6 mois encore, on parlait de ça. Donc, vu le chômage qu'il est en train de pousser, et ça va pousser beaucoup aux électeurs d'être frustrés. Donc, il aura de sérieux problèmes pour sa réélection pour une seconde, un deuxième et dernier mandat aux États-Unis. C'est quelque chose qui est vraiment très dangereux. Ce n'est pas du tout normal d'envoyer des pères de famille au chômage, de les obliger de chômer. C'est quelque chose qui est extrêmement dangereux. Il faut comprendre les choses au sérieux.
Tiernan, il y a des services culturels dans les ambassades américaines en Afrique. Ces services qui ont fermé, on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui y vont pour s'informer ou faire d'autres activités. Chez vous, est-ce que vous y allez de temps en temps ou vous connaissez des gens, des amis?
Non, moi, personnellement, non, pas du tout, mais bon, il y a beaucoup d'amis qui fréquentent. Vous savez, une fois qu'il y a un blocus aux États-Unis, donc les États partenaires ou bien les fonds avec les petites choses qui est basé dans les ambassades là, parce qu'ils ont plusieurs canaux de gestion avec des mesures d'accompagnement avec des petites organisations dans les différents pays au monde, particulièrement ici en Afrique. Ça va affecter tout le monde en même temps. C'est, comme je disais tout à l'heure, ça peut aller là, on peut même pas considérer cette crise. Donc, je parle que de 800 000 qui sont au chômage, mais ça va au-delà parce que, comme vous avez dit, les choses culturelles aussi, dans les ambassades qui ont fermé, ça a vraiment apporté aux jeunes d'avoir des formations de qualité et beaucoup d'autres choses qui vraiment
intéressent. Et d'utiliser surtout l'Internet. Merci à Tcherno pour votre contribution. Nous revenons vers vous, Monsieur Seznek. Notre auditeur semble pointer du doigt seulement le président Donald Trump, mais on sait que les négociations, c'est entre deux parties. Monsieur Seznek.
Allô? Oui.
Oui, oui. Je disais que notre auditeur de Conakry, il semble pointer du doigt seulement le président Trump, mais on sait que les négociations, c'est entre deux parties.
Oui, absolument. Il est certain que le président Trump a causé la crise, hein, c'est sûr, parce que c'est lui qui a dit qu'il ne signerait pas les lois s'il n'y avait pas 5 milliards 7 de dollars pour sur le mur avec le Mexique, mais il est certain que le Congrès aurait pu accepter sa demande et ne l'a pas fait. Et donc il y a les deux parties sont en bise-bise, si vous voulez, l'un contre l'autre. Et à ce niveau de problème, je pense que l'opinion est un peu partagée en ce moment sur qui est responsable. Il est certain que les deux parties sont responsables. Qu'il y en ait un qui soit plus responsable que l'autre, c'est fort possible. Les deux parties sont justement en train de voir comment ça va se développer, de façon à voir comment l'opinion publique va réagir. Si l'opinion publique penche plus vers le président que vers la Chambre du Congrès, vers le Congrès, c'est bien sûr le Congrès qui va perdre et l'inverse. À l'heure actuelle, c'est le Congrès qui est apparemment à plus de support dans la population, mais s'il faut attendre qu'il y ait vraiment un changement fondamental dans l'opinion publique, on peut attendre longtemps, parce qu'il y aura toujours 35% de la population qui sera en faveur de Trump, quoi qu'il fasse. Donc on ne sait pas trop où ça va s'arrêter.
Merci, vous gardez la ligne. Nous avons Aruna Baldé au Sénégal. Bonsoir.
Oui, bonsoir Eric, bonsoir à votre invité, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Je vous écoute.
Alors, moi je disais que je suis de très loin cette shutdown aux États-Unis. Alors nous disons que depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, il ne cesse de montrer une politique d'hostilité, c'est-à-dire un rapport de force toujours entre les démocrates et les républicains. Et moi, ça m'inquiète, c'est-à-dire comment les 800 000 victimes de ce shutdown, comment ils vivent actuellement aux États-Unis. Moi, c'est mon souci aussi. Et au-delà de là aussi, il faut que M. le Président Donald Trump sache que aussi, il faut aussi parfois avoir un esprit de dépassement, c'est-à-dire accepter le dialogue, discuter avec les autres, c'est-à-dire la politique, donc toujours pas utiliser le rapport de force. On sait que les républicains se sont toujours définis par ce système. Bon, je ne sais pas trop la politique américaine, mais bon, vu qu'il doit avoir des conseils pour avancer, pour restaurer la démocratie aux États-Unis.
Merci Baldé pour votre contribution. Nous allons à Kinshasa pour retrouver Alphonse Mbouaki. Alphonse, bonsoir.
Merci, Eric, bonsoir. Moi, c'est pour poser des questions. L'une, c'est à votre intervenant et puis l'autre à vous.
Allez-y.
Bon, la première, c'est celle-ci. Par exemple, ce blocage persiste pendant deux mois. Est-ce que la Constitution n'a pas disposé un mécanisme pour décanter la situation? Ça, c'est pour votre intervenant, cette question. La deuxième question, ça concerne la VOA. Est-ce que la VOA n'est pas affectée par cette situation? Est-ce que parmi les employés, est-ce que la VOA fonctionne? Je ne sais pas si la VOA ne fait pas partie des agences fédérales. Si elle en fait partie, mais pourquoi elle fonctionne jusqu'à présent?
Merci Alphonse de vos deux questions. Je vous répondrai immédiatement qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'employés de la Voix de l'Amérique qui sont affectés par le shutdown, qui sont là, mais ils ne sont pas payés. Il y a plusieurs catégories d'employés. Il y a les employés fédéraux, il y a les contractuels qui continuent de travailler, qui sont payés, mais jusque à la fin de ce mois, si le shutdown ne s'arrête pas, ils seront obligés ils vont être envoyés en chômage technique. Et pour la première question, je veux laisser le soin à M. Seznek d'apporter un éclairage. M. Seznek, si le blocage persiste, est-ce qu'il y a un mécanisme autre que le compromis entre le Congrès et le Président qui est prévu par la Constitution pour décanter la situation?
Ben non, en fait, non, absolument pas. C'est un problème que la Constitution n'avait pas vraiment prévu. Et le problème, c'est que s'il n'y a pas de compromis, ça peut durer très longtemps. Ça peut durer même jusqu'au point où les 800 000 employés de l'État perdront de leur travail entièrement. Ça peut arriver aussi. Mais enfin, ça, c'est quand même pas. Je ne pense pas que ça arrive jusque-là, mais il faut effectivement. Et le compromis est le seul moyen de se sortir de cette impasse.
Merci à garder la ligne. Nous avons eu la réaction de Herman Cohen, l'ancien secrétaire d'État adjoint chargé de l'Afrique. Suivez ce qu'il a dit.
La situation est très tendue entre les démocrates et président Trump. Donc, pour le président de venir devant la Chambre des représentants avec le Sénat et faire son discours annuel, ce sera un peu difficile. On ne peut pas demander aux démocrates d'applaudir le président. Donc, Madame Pelosi, elle a raison, je crois, de dire qu'il faut attendre un autre moment quand il y a moins de tension.
Mais c'est quand même inédit. On n'avait jamais vu ça.
C'est vrai. Vous savez, le discours annuel, ça date depuis 50 ans. La Constitution ne demande pas un discours. La Constitution demande que le président fasse un rapport annuel sur l'état de l'Union. Avant le discours, il y a 50 ans, il a fait simplement un document qu'il a distribué à tout le monde. Donc, ce n'est pas obligatoire qu'il fasse un discours. Mais quand même, vous avez raison, ce sera un peu difficile de dire aux Américains qu'il n'y aura pas de discours cette année.
Et vous pensez que ça pourra faire pression au président Trump pour revoir sa copie?
Oui, je crois que c'est vrai, parce que les gens qui sont vraiment en difficulté maintenant sont les républicains. Il fait pression sur qui quand il ferme le gouvernement? Tout ce qu'il fait, c'est de donner le chômage aux pauvres fonctionnaires. Fermeture du gouvernement est très impopulaire dans la population américaine. Et ce sont les républicains qui doivent persuader président Trump de changer et d'ouvrir le gouvernement. Et s'ils attendent encore un mois, les républicains vont perdre la prochaine élection. Ils ont déjà perdu la Chambre, ils vont perdre le Sénat en 2020 et aussi ils vont perdre la présidence. Donc c'est aux républicains dans le Congrès maintenant de faire pression sur le président Trump.
Et Mitch McConnell?
C'est lui qui doit persuader le président Trump de réouvrir le gouvernement. Mais lui est en difficulté aussi. Il vient d'un État républicain, le Kentucky. Il doit être réélu dans 2020. Donc s'il cède aux démocrates maintenant, il risque de perdre sa place dans le Sénat en 2020. Les extrémistes républicains peuvent mettre quelqu'un dans sa place. Il est très prudent de ne pas aller contre les trumpistes dans son État.
Voilà, c'était Herman Cohen qui est du Parti républicain. Nous avons un auditeur Koulibaly en ligne. Koulibaly, bonsoir.
Allô?
Allô? Mariam?
Allô? Oui?
Vous avez la parole.
D'accord. Moi, je pense que le président Trump, il doit se conformer un peu à l'Amérique populaire, de la population. Lui seul, il ne peut pas tout décider, il ne peut pas tout faire. Je pense qu'il doit être un peu d'accord avec ceux qui sont de son parti et ceux qui ne sont pas de son parti. C'est l'avis de tout le monde qui compte. Et vraiment que les gens soient sans salaire pendant un mois, deux mois, grâce à sa faute, c'est pas une chose qui est normale.
Donc pour vous, il faut qu'il y ait des concessions des deux parties.
Voilà, des deux parties, surtout de Trump. Surtout de Trump.
Merci, merci.
On ne peut pas diriger un pays comme ça. Il est homme d'affaires, il dirige son entreprise, mais le gouvernement, ce n'est pas pour lui. Ce n'est pas pour lui. La population, tout le monde. Les États-Unis, ce n'est pas pour lui seul. Et c'est ça. Et ce sont les Américains qui doivent dire à Trump ce qu'ils ont à dire. Ça, c'est mon avis.
Merci, Mariam, pour votre contribution. Nous avons également eu la réaction d'un analyste politique qui s'appelle Emilio Viano. Suivez.
Vraiment, c'est un changement de l'atmosphère, de la relation entre le président et Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des députés. On peut bien penser à ce qu'a dit le sénateur républicain Lindsey Graham. Il a qualifié d'irresponsable la réponse de M. Trump, également inappropriée, en réponse à la lettre de Mme Pelosi qui reportait le discours du président sur l'état de l'Union dans une autre date que le 29 janvier. C'est vraiment une situation très difficile maintenant. Parce qu'on peut voir que cette partie d'échec entre Donald Trump et Nancy Pelosi s'est transformée en une partie de dames. Il semble qu'il aime ce type de confrontation, une confrontation frontale et directe. Les démocrates sont un adversaire tout trouvé, mais naturellement le danger c'est de jouer trop avec le feu de la part de Trump ou de la part des démocrates. Oui, Trump aime les oppositions frontales et directes, mais il pourrait naturellement commencer encore plus sa descente dans l'opinion populaire, qu'il semble que jusqu'à maintenant, en majorité, donne la responsabilité de cette situation au président et pas encore aux démocrates. C'est un jeu maintenant, un jeu très personnel, irresponsable, inapproprié, qui baisse le respect dans le pays et naturellement à l'étranger, pour la présidence des États-Unis particulièrement, mais aussi pour l'image des États-Unis comme un pays vraiment démocratique qui veut enseigner au monde comment on gouverne bien, comment on peut avoir une démocratie qui est en faveur du peuple. C'est-à-dire que c'est une perte d'image, de prestige sur le pays.
C'était Emilio Viano. Monsieur Seznek, vous êtes là, vous nous entendez?
Oui, oui.
Est-ce que l'image des États-Unis est pour autant écornée ou c'est tout simplement un exercice démocratique?
Non, je pense qu'effectivement, l'image est très écornée. Il est certain que la bagarre qu'il y a entre le président et la Chambre des députés est une bagarre qui est très très difficile et qui ne fait pas honneur à la démocratie en fait. Parce que ça veut dire que un État vraiment démocratique où les gens expriment leurs opinions et ont des idées même assez fortes, normalement doit quand même pouvoir marcher. Or maintenant on a arrêté le gouvernement parce que ça marchait plus. Donc c'est pas un bon signe pour la démocratie. C'est même ça écorne même tout l'institut démocratique. Et ça c'est pour ça que la personne qui parlait avant moi l'a très bien remarqué, que c'est très mauvais pour l'honneur des États-Unis dans le monde entier et aussi l'honneur de la démocratie et du système démocratique. Donc je ne sais pas exactement comment ça va se terminer, mais ça va laisser une très mauvaise impression au monde entier.
Alphonse Mboaki, vous êtes encore là? Est-ce que vous êtes satisfait des réponses? Alphonse?
C'est bien, j'ai compris.
Merci Alphonse et bonne soirée chez vous à Kinshasa. Je reviens vers vous, Monsieur Seznek, avant de terminer. Il y a une auditrice qui estime que le président veut gouverner comme si il dirigeait son entreprise,
oui.
Et que ça ne devrait pas se faire comme ça.
Oui, en fait, elle a parfaitement raison. C'est exactement ce qu'il essaye de faire. Mais il faut dire aussi que la plupart des entreprises ne sont pas vraiment dirigées comme ça non plus. Il faut se rappeler que Trump n'était pas un bon dirigeant d'entreprise, qu'il a fait faillite plusieurs fois et qu'il n'était pas du tout aimé par ses gens. Donc on ne peut pas dire que ce soit un bon chef d'entreprise, c'est même un très mauvais chef d'entreprise à mon avis. Mais il essaye de faire marcher le gouvernement comme ça et c'est beaucoup trop difficile parce qu'il y a trop d'opinions et il ne peut pas arrêter les opinions. Donc tout le monde a le droit de parler, tout le monde a le droit d'avoir. Alors il a certainement raison dans certaines choses, hein, même s'il avait raison pour le mur, je ne dis pas qu'il a, mais s'il avait raison pour le mur, c'est pas de cette façon-là qu'il faudrait s'y prendre. Il faudrait qu'il soit plus politique, mais ça il ne sait pas le faire, bien sûr. Et on ne sait pas comment ça va continuer.
Merci, messieurs Seznek, pour votre contribution. Et c'est ici que nous devons mettre fin à ce... à cette émission, l'Amérique et vous de ce soir. Eric Manilakiza était avec vous. On parlait du shutdown qui aujourd'hui est à son 28e jour, plus de 3 semaines déjà. On ne sait pas comment ça va se décanter. À la prochaine.